Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Un parfum glacé. Dans le chapitre précédent, vous avez rencontré pour la première fois Ursula Bader, qui est un personnage que personnellement j'affectionne énormément, qui est un petit peu la, comment dire, la petite roue manquante à tout ce rouage, le dernier petit regard un peu externe qu'on peut éventuellement avoir sur l'histoire de Lilou, des pages, des jacquards et tous ces personnages qui commencent gentiment à se mettre en place. Vous commencez petit à petit à connaître tout le monde, vous les connaîtrez encore mieux bien sûr par la suite. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 20, Alsace 2005. En rentrant des peupliers ce jour-là, Nicolas réfléchissait au récit de Lilou, s'aperçut qu'il connaissait bien mal la vie de ses propres parents. Peut-être en est-il de même pour tous les enfants, se dit-il. L'existence de nos parents commence avec nous, on oublie volontiers qu'ils ont vécu avant nous, qu'ils ont aimé, été aimés, ou au contraire, éprouvé de la haine ou en ont été l'objet. Qu'ils ont commis des erreurs, des injustices ou qu'ils en ont souffert. Il commençait à voir ses parents différemment, surtout son père. Sa mère Clara semblait être restée fidèle à elle-même. Depuis tout petit, il l'avait toujours connue ainsi, un peu farfelue, pétulante, bavarde et étourdie. Mais essayait-on de toucher à son petit garçon, et elle se transformait en tigresse. Elle faisait mille choses, puis les abandonnait, car une autre idée lui traversait la tête. Mais toujours, il avait pu compter sur elle et sur son père aussi. Il s'arrêta un instant sur le chemin et se posa sur un banc, repensait à son enfance, le remuait plus qu'il ne pensait. Toujours, ils avaient été là pour lui, le défendant bec et ongles face aux professeurs qui leur conseillaient de le mettre dans une école spécialisée, simplement parce qu'il fuyait ses camarades, leur préférant les livres et les dessins, parce qu'il préférait garder ses réponses pour lui quand la maîtresse l'interrogeait en classe, et qu'il restait muet sous les rires moqueurs des autres élèves. Parce qu'il évitait autant que faire se peut les cours de gymnastique, quand il ne pouvait pas grimper au poteau ou à une corde, pris de vertige, et se faisait traiter de mauviette par les autres garçons qui, eux, montaient comme des singes sous les regards admiratifs des filles qu'il faisait semblant d'ignorer. En règle générale, ses camarades le laissaient tranquille. Il s'asseyait au fond de la classe, seul à un pupitre, alors que tous les autres étaient deux par deux, écoutaient et apprenaient ses leçons sans dire un mot. Comme il faisait scrupuleusement ses devoirs et ne dérangeait jamais la classe, les maîtresses successives avaient pris le parti de laisser cet étrange petit bonhomme vivre sa scolarité en toute tranquillité. Pendant les récréations, il restait dans un coin de la cour, assis sur un petit muret, branlant, qui jouxtait le jardin de la famille Roulant. Et là, concentré, une mèche brune trop longue retombant sur ses yeux, il passait le temps en faisant des esquisses de ses camarades en train de jouer au foot ou aux gendarmes et aux voleurs, saisissant au passage quelques bribes de conversation, ponctué d'éclats de rire, de cris aigus ou d'exclamations de rage vite oubliées. La seule compagnie du vieux chat noir des Roulants lui suffisait. Celui-ci arrivait quelques secondes à peine après l'arrivée de Nicolas et restait couché à côté de lui comme un gros manchon poilu, serti de deux émeraudes et admirait le travail du garçon en émettant un ronronnement sonore et satisfait. Puis, à la fin de la récréation, quand Nicolas se levait et le suivait jusqu'à l'escalier de pierre où les enfants devaient se mettre en rang deux par deux avant de rentrer en classe en silence, là, soucieux de ne pas laisser le petit garçon seul au bout de la rangée, il s'asseyait à côté de lui jusqu'à ce que la maîtresse fasse entrer les enfants et s'en allait rejoindre son muret. Cette vie lui convenait à merveille et tout aurait pu continuer ainsi, mais l'année suivante, il allait avoir 8 ans, arrivèrent les frères Moulin. Suite au licenciement du père Moulin qui travaillait à la ville, toute la famille emménagea chez la sœur de celui-ci à Fontainebleau pour quelque temps. Les deux frères, Robin et Denis, de 9 et 10 ans, intégrèrent la classe de Nicolas à l'automne. Tous deux blonds, rouges, grands et gros, ils ne tardèrent pas à semer la pagaille dans toute l'école. Prenant de haut tous ces petits paysans, ils se vantèrent de la modernité de leur ancienne école et se moquèrent des vêtements et de l'accent de leurs camarades. Presque tout de suite, ils décidèrent que Nicolas deviendrait leur bouc émissaire. Se sentant supérieurs à tout le monde, même à Mademoiselle Legrand, la maîtresse, ils commencèrent par asseoir leur autorité en racontant à qui voulait l'entendre que leur mère, en ville, fréquentait un club de femmes très raffinées, très élégantes, qui se réunissaient et parlaient de politique, de peinture et de livres, alors que les mères de leurs camarades, les paysans, passaient leur journée à cuisiner, à jardiner ou à aller au champ, habillées comme des pauvresses. Ils s'amusaient également à tourner en ridicule leur accent chantant, leur tournure de phrase et leur démarche, prenant même plaisir à les imiter dans la cour, en une parodie grotesque qui faisait rire nerveusement ceux qui n'en étaient pas victimes. Pourtant, ce qui fit leur bonheur, ce fut le jour où ils aperçurent Clara, vêtue de sa sempiternelle salopette de mécanicienne, les joues barbouillées de cambouis, une ecchymose marbrant son menton, et les cheveux comme toujours formant une crinière poivre et sel informe sur sa tête. Elle passait chercher son fils en voiture après l'école. Ce spectacle les enchanta. Pendant les jours qui suivirent, ils prirent régulièrement Nicolas à partie. « Nico, ça fait quoi d'être le fils d'une sorcière ?» Au début, il répondait « Ma maman n'est pas une sorcière, elle répare les voitures. » Ils se mirent à l'imiter, prenant une voix de fausset. « Gna gna gna, ma maman, c'est pas une sorcière, elle répare les voitures. » Savoir que son père était écrivain ne calma pas leur méchanceté. Ils continuèrent de s'en prendre à Clara, la traitant de frappadingue, de folle et de ce qui devint leur insulte favorite, de sorcière, toujours sale et mal coiffée. Puis au fil des jours, ils le harcelèrent de plus en plus, lui suivirent partout, lui arrachèrent son carnet de croquis, ne le laissèrent plus jamais tranquille pendant les récréations assis sur son mur. Le chat noir déroulant, effarouché, lui retira sa compagnie, peu désireux de lier connaissance avec ses deux nouveaux compagnons. Il pensa qu'ils allaient se lasser, l'oublier, mais au lieu de ça, les deux garnements mirent les bouchées doubles et incitèrent les autres à faire de même, si bien que pendant toutes les récréations, Nicolas dut subir les moqueries et parfois même les coups des frères Moulin et de leur cour, car parmi les autres enfants, tous plus jeunes, aucun n'eut le courage de leur tenir tête et certains prirent même plaisir à jouer les tortionnaires. Il devint le fils de la sorcière.